Et nous continuons notre méditation donc sur les attributs de Dieu à partir du chant hein, « Nul n'est comme toi ». Et il y a 15 jours, donc, on avait vu la tendresse, la compassion de Dieu. « Nul n'est comme toi », dit la seconde strophe, « si tendre et si patient et toujours à nos côtés ». Donc on avait vu la tendresse, la patience de Dieu. Aujourd'hui, la tendresse, la compassion de Dieu, on va voir aujourd'hui la patience de Dieu. Et Dieu voulant, la semaine prochaine, on verra la fidélité de Dieu. Donc aujourd'hui, Dieu est patient. Alors, il y a deux textes qu'on va lire, qu'on va en tout cas méditer au cours de notre prédication maintenant. D'abord, c'est un simple verset, mais qui résume beaucoup d'autres versets dans la Bible. C'est en Nahum. J'ai plaisir à citer Nahum ou Nahum, hein, chapitre 1, verset 3. Il est très peu cité, hein, c'est dommage. On y remédiera un peu un jour peut-être. Mais Nahum, chapitre 1, verset 3. Le Seigneur est lent à la colère, il est grand par sa force. Il y a plus de choses dans ce verset qu'on ne croit, on va le voir tout à l'heure. Et puis surtout Jacques 5, 7 à 11, qui nous parle aussi de patience, la patience entre frères. Prenez donc patience, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici que le laboureur attend le précieux fruit de la terre plein de patience à son égard, jusqu'à ce qu'il reçût les pluies de la première et de l'arrière saison. Vous aussi, prenez patience, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns les autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés, voici que le juge se tient devant la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont tenu ferme. Vous avez entendu parler de la fermeté de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. Merci pour ta parole, Seigneur, encore aujourd'hui, qui est lumière, qui est source de vie, de force et de sanctification. Amen. Alors, Dieu est patient. Cette perfection de Dieu est un peu moins spectaculaire ou un peu moins populaire hein, que d'autres qualités, que d'autres attributs de Dieu, comme sa puissance, hein, comme son amour, comme sa sagesse. Mais cette qualité, cette perfection de Dieu est tout aussi importante que les autres et tout aussi importante surtout pour nous. Donc il est bon de méditer de temps en temps sur la patience de Dieu. Il est bon d'en saisir toutes les et certaines applications, en tout cas implications dans nos vies. Alors la première chose qu'on peut dire, c'est que Dieu est donc lent à la colère. C'est un grand thème de l'Ancien Testament spécialement. La patience de Dieu est souvent mentionnée avec d'autres attributs de Dieu. Par exemple, en Exode 34, verset 6, et elle est appelée la lenteur à la colère. Et Exode 34, verset 6, mais vous allez reconnaître le psaume 103 hein, et beaucoup d'autres textes. L'Éternel passa devant Moïse en proclamant, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité. » Donc, la patience de Dieu, on pourrait dire, pour la distinguer de sa grâce, de sa compassion, de sa bienveillance, de sa fidélité, hein, la patience de Dieu est quelque chose de très particulier. La patience de Dieu, on pourrait donner sa définition suivante. La patience de Dieu est sa bonté en action envers des gens qui méritent d'être punis. Donc, il y a des gens qui méritent d'être punis. Et Dieu leur manifeste pourtant sa bonté, mais pas n'importe quelle bonté, une bonté en action. Et c'est ça la patience de Dieu. Sa bonté en action envers des gens qui méritent d'être punis. Donc sa patience, on pourrait dire autrement, fait retarder l'heure du jugement et de sa colère. Et en hébreu, la colère est représentée par le nez. C'est un peu comme dans les dessins animés où on voit un taureau là, en colère et on voit... Sa tête rouge, et on voit de son nez sortir de la fumée. Ceux qui lisent les bandes dessinées ou qui regardent ça à la télé, ils le savent. Et c'est un peu ça l'image biblique de la colère. Elle est représentée par le nez, la fumée qui sort du nez exprime la colère. Et avoir le nez long, c'est être lent à la colère. Parce que quand on a le nez long, eh bien le nez s'échauffe moins vite et la fumée prend plus de temps pour sortir. Et donc, c'est avoir le nez long, c'est être lent à la colère. C'est une image biblique qui est appliquée à Dieu. En français, on aurait, en français soutenu, qu'on ne parle plus, sauf dans les vieux cantiques, nous aurions le mot longanimité. Dieu est longanime. C'est-à-dire, il a la patience de supporter. Alors, il faut faire un rapport entre la patience et la puissance dans la Bible. En Nahum 1:3, on a vu, le Seigneur est lent à la colère, il est grand par sa force, par sa puissance. Donc ça veut dire que la patience de Dieu, c'est la puissance de contrôle que Dieu exerce sur lui-même afin de retenir sa juste colère contre les pécheurs qui continuent à lui désobéir et qui méritent d'être punis. Il est grand par sa force. S'il est lent à la colère, c'est parce qu'il est grand par sa force. C'est-à-dire que sa puissance et sa patience vont ensemble. Les hommes manquent de patience. Pourquoi les hommes manquent de patience et s'enflamment si facilement? C'est parce qu'ils n'ont pas la force, ils n'ont pas la puissance pour retenir leur colère envers ceux qui les offensent. Et cette colère, eh bien, prend, monte et éclate. Dieu, lui, est lent à la colère du fait qu'il est tout puissant. Il est tout puissant. Il exerce sa puissance sur lui-même, afin de retenir sa colère et d'en reporter la manifestation à plus tard. Alors, comment la patience de Dieu s'est-elle manifestée dans la Bible? C'est bien de faire de temps en temps un petit voyage dans la Bible. Et donc, elle s'est d'abord manifestée envers Adam et Ève. Dieu leur avait annoncé que le péché mérite la mort, et le jour où ils pécheront, ils mourront. Et lorsqu'ils ont désobéi, ils ne sont pas morts instantanément, comme ça, sur place. Mais Dieu donc a commencé par leur infliger la mort spirituelle. Ils ont été séparés de Dieu. Ils se sont séparés de Dieu. Mais leur mort physique, heureusement, a été reportée à plus tard. Et Adam a vécu 910 ans, je ne sais plus, en tout cas un nombre important d'années. Car Dieu a été patient envers eux. Il leur a donné du temps pour qu'ils puissent entendre la promesse du salut qui leur a été annoncée, pour qu'ils reviennent aussi au Seigneur, pour qu'ils donnent naissance à des enfants. C'est un grand acte de foi et d'espérance pour perpétuer la lignée humaine. Et puis la patience de Dieu s'est aussi manifestée envers l'humanité pécheresse. On voit ça avec le déluge. L'humanité est devenue corrompue, Genèse 6, rebelle, méchante, mais Dieu ne les a pas réduits, réduits à rien, sans d'abord les avertir avant le déluge. Et on voit Noé, Noé qui leur a prêché la bonne parole pendant 120 ans, 1 Pierre 3:20. Les gens avaient été rebelles autrefois lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, où Noé construisit l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, 8, furent sauvées à travers les eaux. Donc Dieu a attendu des années avant d'envoyer le déluge. Le temps que Noé construise l'arche, 120 ans, et qu'il avertisse ses contemporains inlassablement, en dépit des colibés, des injures qu'on lui a assénées. Et puis l'apôtre Paul nous dit que plus tard, Romains 1, 19, 26, que plus tard, les païens vont adorer et servir les créatures au lieu du Créateur. C'est le grand chapitre 1 de Romains. Et qu'ils vont commettre les pires abominations contre nature. Et cependant, Dieu n'a pas utilisé son épée jusqu'aujourd'hui pour exterminer de tels rebelles sous plusieurs formes. Au contraire, il a usé de patience. Actes 14, 16, 17. Dans les générations passées, Dieu a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage à ce qu'il est par ses bienfaits, en vous donnant la pluie du ciel, les saisons fertiles, en vous comblant de nourriture et de bonheur dans le cœur. La patience de Dieu face à la rébellion des hommes. Et encore aujourd'hui, on peut le dire, si Dieu punissait tous les pécheurs selon ce qu'ils méritent, eh bien, plus personne ne serait vivant. Dieu est réellement, et il est patient, il est tellement patient. Alors Dieu est patient aussi envers son peuple. Et Dieu a été patient particulièrement envers son peuple d'Israël. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'est fait connaître à eux, il a été plein de grâce envers eux. Il leur a fait des promesses, hein, plus belles les unes que les autres. Il les a délivrés du pays d'Égypte. Il les a conduits finalement vers la terre promise, mais ils se sont rebellés de multiples reprises. Ils se sont détournés. Et il y a de grands psaumes, psaume 105, mais 106 surtout, psaume 78, qui nous parle de la patience de Dieu. Et Moïse fit appel à la patience de Dieu lorsqu'Israël s'est égaré et a péché gravement contre Dieu. Nombre 14, 17, 18 par exemple. Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est grand et il est lent plutôt à la colère et riche en bienveillance. Donc Moïse en appelle vraiment à la grandeur de ce que Dieu est et il parle de sa patience. La puissance de Dieu est là pour retenir sa colère en le gardant patient. Il a été tellement patient envers son peuple. Et tous ceux qui ont intercédé pour le peuple, eh bien comme Moïse, ont pris appui sur cette patience pour prier inlassablement, avec persévérance. Romains 3, versets 25-26. C'est le grand achèvement de ce temps de patience de l'Ancien Testament. Et il débute un nouveau temps de patience maintenant. Dieu laissé impunis les péchés commis auparavant, sous l'ancienne alliance, au temps de sa patience. Il a voulu montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être reconnu juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Donc c'est le grand message de l'Épître aux Romains. Dieu a été patient envers Israël jusqu'à la venue de Jésus. Quand les péchés de son peuple ont été enfin expiés par la mort de Jésus sur la croix, alors sa colère contre Abraham, contre Isaac, contre Jacob, contre David et tous les autres, enfin leur demande leur confession de péché adressée à Dieu, tout cela a pu trouver son accomplissement par la mort de Jésus sur la croix. La colère de Dieu s'est déversée enfin sur son fils, son propre fils à la croix. Tous les sacrifices de l'Ancien Testament, comme il a été dit dans la première partie, étaient insuffisants pour assurer la justification de ces hommes. Seule la mort du Christ sur la croix pouvait le faire. Et donc c'est le moyen choisi par Dieu pour apaiser sa colère et donner la paix avec Dieu. C'est toujours le moyen aujourd'hui. Alors quelle est l'utilité pour nous de savoir que Dieu est patient ? Bien, tout d'abord, on peut s'en étonner tous les jours, on peut l'admirer, on peut s'en rappeler, c'est une source de grande joie. Et l'apôtre Paul vivait ça, en 1 Timothée 1, 16, « Il m'a été fait miséricorde, afin que moi, quand moi le premier, Jésus-Christ, montre toute sa patience, voyez, pour servir d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. » Quand nous considérons, nous ne sommes pas l'apôtre Paul, mais quand nous considérons toutes les méchancetés que nous avons commises, et quand nous considérons aussi que Dieu, malgré tout, nous a accordé sa grâce si abondante en Jésus-Christ, sans que nous y soyons pour rien, cela devrait nous pousser à être dans l'admiration, l'adoration, la reconnaissance, comme l'était l'apôtre Paul, comme il l'a toujours été. Donc rendons gloire à Dieu, reconnaissons sa patience et sa grâce envers nous. Et s'en souvenir, c'est une grande source de sanctification. Puis la patience de Dieu nous appelle à nous repentir. Ça c'est un grand message aussi. Dans l'Épître aux Romains au chapitre 2 verset 4. Méprises-tu les richesses de sa bonté, de son support, de sa patience ? Sans reconnaître que la bonté de Dieu, et on va dire sa patience, te pousse à la repentance. Donc, pourquoi Dieu est-il patient ? Et il serait plus simple pour un Dieu juste et saint et puissant de punir tous les pécheurs instantanément. La parole de Dieu nous fait comprendre la raison pour laquelle Dieu est patient. Dieu est patient car il veut nous donner le temps et l'occasion de nous repentir en vue du salut. Et c'est le grand message de la fin de la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, verset 15. Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Ce n'est pas une source de faiblesse, la patience de Dieu. C'est une raison de se tourner vers Dieu dans la repentance et dans la foi. Nous méritons tous la mort, nous la méritons dès maintenant. Et Dieu est patient, il veut nous accorder son pardon. Et une chose dont il faut bien se rappeler, c'est tout comme la grâce de Dieu ne nous donne pas le droit de pécher, de même la patience de Dieu ne nous donne pas la liberté de faire n'importe quoi, de paresser. Chaque nouvelle journée que le Seigneur nous donne est une journée de grâce. C'est aussi une occasion qui nous est donnée de revenir à lui. Une occasion qui nous est donnée d'encourager les autres à se tourner vers lui. Et Joël 2, versets 12 à 14, dit « Revenez à moi ». C'est un grand message aussi de l'Ancien Testament. Le prophète Joël dit « Revenez à moi de tout votre cœur, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez au Seigneur l'Éternel, votre Dieu, car il fait grâce, il est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance. » Alors, c'est vrai que quand on réfléchit, comment, de quelle manière les méchants, et parfois nous-mêmes, comment les méchants interprètent-ils la patience de Dieu ? Je l'ai dit tout à l'heure, ils l'interprètent comme un signe, d'abord, que Dieu n'existe pas, ou bien alors comme un signe de faiblesse. Il ne punira pas, il ne punira jamais. Ils peuvent donc continuer à pécher de plus belle. Et c'est le grand message du psaume 14. L'insensé dit en son cœur, Dieu n'existe pas, Dieu n'agit pas, on pourrait traduire. Psaume 53 aussi. Et l'Ecclésiaste dit la même chose, Ecclésiaste 8, 11. C'est ce beau livre de l'Ancien Testament qui contient tellement de choses précieuses. Parce qu'une sentence contre une mauvaise action n'est pas exécutée rapidement, le cœur des humains, au-dedans d'eux, est rempli du désir de faire le mal. Du désir de continuer à faire le mal, on pourrait dire. Alors, ce que dit la parole de Dieu, nous devons l'enfoncer profondément dans notre façon de penser, dans notre cœur. Ces gens se trompent s'ils pensent comme ça. Et s'il nous arrive de penser ainsi, nous nous trompons, nous nous illusionnons. Et 2 Pierre 3, 8 à 9 dit, « Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. » Il use patience envers nous, il ne veut pas qu'aucun périsse, il veut qu'ils arrivent à la repentance. Donc on ne devrait jamais penser insolemment que la patience de Dieu va toujours durer, que nous pourrions ainsi négliger de faire ce à quoi Dieu nous appelle. Un jour, sa colère se déversera sur ceux qui n'auront pas cherché leur refuge en Jésus-Christ. Et puis la patience de Dieu nous appelle à être patients. Là, il faut insister aussi. Puisque Dieu est patient, ses enfants, transformés par son esprit, devraient aussi chercher à limiter sur cet aspect de sa personnalité. La patience fait partie du fruit de l'esprit. Galates 5, 22. La patience. Donc, l'esprit transforme nos vies à l'image de Jésus-Christ. Il prend ce qui est en Jésus, il veut le mettre en nous. Et un des aspects de la vie de Jésus, c'est ça. Patience qu'il veut mettre en nous. C'est le fruit qu'il veut nous voir porter. Nous n'avons qu'une raison de murmurer contre Dieu dans nos afflictions. Nous devrions au contraire reconnaître que Dieu ne nous traite pas selon ce que nous méritons. Esdras 9, 13, on a lu et Néhémie dans la première partie de l'année. Esdras nous dit « Tu ne nous as pas, ô notre Dieu, punis en proportion de nos fautes. » C'est la même teneur pour Néhémie 9. Donc nous devrions également être patients donc avec les autres. Alors, le passage qui nous aide dans ce sens, c'est le deuxième passage qu'on a lu, Jacques 5, 7 à 11. Donc, on peut le faire réapparaître devant l'écran. C'est un très beau passage de l'épître de Jacques. Jacques parle de façon incisive, claire. Ce sont des flèches qui rentrent dans le cœur aisément. Et donc, l'horizon du chrétien, c'est la venue du Seigneur, dit-il. Il parle dans le cadre de l'avènement du Seigneur, de sa venue. Voilà l'horizon qui est devant nous. Alors, au moment de la venue du Seigneur, s'accomplira l'espérance du chrétien. Mais dans cette perspective, dans cette attente, une qualité essentielle à développer, c'est la patience. La patience est une qualité essentielle du chrétien. Et c'est ce à quoi nous exhorte Jacques ici. Et il le fait par le biais de deux exemples, on va dire, de deux flèches. Et il souligne deux types de patience qui peuvent nous concerner. D'abord, la patience du cultivateur, et ensuite, la patience ou la fermeté de Job. Alors, la patience, d'abord, du cultivateur. En tant qu'ouvrier avec Dieu, dans le champ de son royaume, il nous faut la patience du cultivateur. Alors, on a tous des ancêtres cultivateurs, il ne faut pas aller très très loin. Hein. Et nous savons en gros ce que ça veut dire. Le cultivateur attend la récolte. Hein. Mais il ne reste pas les bras croisés en attendant. Hein. Il prépare la terre en la labourant, en semant la semence, en surveillant son champ. Hein. Sa patience se manifeste dans un travail persévérant. Et l'avènement du Seigneur apparaît ici comme une récolte abondante qui viendra en son temps. Ça sera l'éclosion finale de tous les fruits. Et d'ailleurs, l'expression « l'avènement du Seigneur s'est approché hein, » rappelle « le royaume de Dieu s'est approché hein, » de Jésus. Donc ce sera l'aboutissement du royaume en marche, ce sera de ce royaume qui est en marche, qui est en croissance. Ce sera l'aboutissement. En attendant, il faut laisser le temps pour que le fruit pousse aussi. Le cultivateur ne reste pas les bras croisés, on l'a dit, mais il laisse aussi le temps pour que le fruit pousse. Le fruit ne se récolte pas aussitôt, le champ ensemencé. Tous les enfants à l'école primaire ont planté des haricots dans des pots, et puis il y en a toujours qui essayaient de voir comment ça poussait, de voir les racines, de retirer la plante du pot, de regarder, de tirer, je ne sais pas quoi. On a tous fait ça plus ou moins. Ça n'aide pas. On le sait bien. Donc, et c'est pareil dans nos vies. Le fruit ne se récolte pas aussitôt, le champ ensemencé, il faut la patience. Pourquoi en serait-il autrement dans notre vie, dans notre église, dans notre témoignage? Il faut du temps et le travail patient. Un travail patient. On ne doit pas s'attendre à porter du fruit pour Dieu dans notre vie si on ne travaille pas notre communion avec Dieu. On ne doit pas espérer que notre Église porte du fruit si on ne s'y investit pas dans la prière, bien sûr, dans l'action également. Et si malgré cela, le temps semble long et les fruits tardent à paraître, eh bien on ne doit pas oublier la promesse de Dieu. Celui qui l'a commencé, il l'achèvera. Celui qui sème, comme dit le psaume 126, celui qui s'en va en portant sa semence avec des larmes, s'en reviendra avec des cris de joie, en portant la récolte. La récolte viendra en son temps, peut-être avec des fruits précoces, peut-être avec des fruits tardifs, c'est ce que Jacques dit. Et puis, il faut se rappeler que la vie d'aujourd'hui est faite aussi d'épreuves. Et donc, il nous faut la patience de Job, il dit. Pas seulement la patience du cultivateur, la patience de Job. La patience de Job, c'est une patience associée à la souffrance. La souffrance a été le lot commun de nombreux prophètes de l'Ancien Testament. Particulièrement, donc, il y a eu Habacuc, on voit toutes sortes de choses dans les psaumes également. Et puis il y a Job, particulièrement Job. La patience de Job, sa fermeté dans l'épreuve, c'est celle de l'endurance, donc de la fermeté dans l'épreuve. Il a supporté des souffrances inimaginables et aussi inexplicables. Alors, inimaginable, c'est les féroces attaques de l'ennemi, c'est la perte de ses enfants, c'est de ses richesses aussi, de sa santé, de sa réputation. Et le pire de tout, c'est le sentiment d'avoir perdu la présence de Dieu. C'est peut-être ça le plus insupportable. Et Job commence par dire, dans des termes un peu forts, sa souffrance, sa détresse, son désespoir. Il en veut à Dieu d'avoir d'une certaine façon, puisqu'il croit en la toute-puissance de Dieu, d'avoir provoqué sa perte. Il réclame le pouvoir rencontrer Dieu pour présenter sa défense. Et ça nous rappelle qu'on a le droit de tout dire à Dieu. Les psaumes nous donnent des paroles pour dire que nous sommes en colère après lui. Mais on n'en reste pas là. On commence par là, mais on n'en reste pas là. Et Job a continué. Le livre de Job est un peu long, mais on voit qu'il a continué. Et progressivement, ses cris de colère, d'incompréhension, d'angoisse sont ponctués par des éclairs de foi. je sais que mon Rédempteur est vivant, hein, par exemple, qu'il se lèvera au dernier jour, hein, et qu'il fera justice. Donc Dieu n'a jamais, c'est pas seulement inimaginable ces souffrances, c'est inexplicable, parce que Dieu n'a jamais expliqué à Job la raison de ses épreuves. Nous, nous connaissons les coulisses de l'histoire, Job 1 et Job 2, hein, et nous pouvons voir la bataille entre Dieu et Satan, mais Job ne l'a jamais su. Il est arrivé au point de pouvoir pourtant accepter tout ce que Dieu lui permettait. Et plus souvent, nous ne voyons pas nous non plus le but poursuivi par nos épreuves. Mais grâce aux encouragements des Écritures et de Job en particulier, nous pouvons espérer. Et par l'espérance, nous devrions persévérer. Alors Jacques insiste sur la fin que Dieu lui a accordée. On pourrait traduire sur la fin que Dieu lui se proposait. Et il se proposait que Job allait glorifier Dieu. Et heureusement, il l'a glorifié aux yeux de tous. Mais Dieu lui a accordé une belle fin, hein, avec une bénédiction déjà renouvelée. Mais surtout, dans le cadre de l'épître de Jacques, on peut comprendre que c'est l'avènement du Seigneur qui apparaît ici comme la délivrance de toute souffrance. Le temps de la consolation et des récompenses arrivera un jour. Il ne faut pas se laisser donc en attendant, il ne faut pas se laisser décourager par l'épreuve qui survient. Même quand il n'y a rien dans le présent qui donne espoir, nous devons regarder plus loin, à la fin, à la délivrance. Et c'est la promesse des prophètes, reprise dans l'Apocalypse. Le Seigneur essuiera toute larme de leurs yeux. Alors finalement, un croyant qui traverse l'épreuve avec patience, dans la paix, dans la fermeté, dans la confiance, est un témoignage aussi fort qu'une guérison miraculeuse et spectaculaire. Et c'est la patience de Job qui est donnée en exemple à tous les chrétiens de tous les temps par cet épître de Jacques. Et si cette espérance, on pourrait ajouter, est bien ancrée dans nos cœurs, alors elle aura un impact sur notre quotidien, dans nos relations, des relations marquées par la patience. Donc j'y viens. On se demande pourquoi, au milieu de ces considérations sur l'avènement du Seigneur, sur Job et compagnie, sur les cultivateurs, Jacques se met à insérer une mise en garde à ne pas soupirer les uns contre les autres, verset 9. C'est sans doute pour souligner l'impact pratique de notre espérance sur nos relations. Si nous nous montrons patients dans l'attente du retour du Seigneur, comment pourrions-nous ne pas être patients les uns envers les autres? Et là, il y a un décalage parfois. Alors, par exemple, dans nos relations, la patience du cultivateur va se montrer comment? Mais la patience du cultivateur dans nos relations, c'est laisser le temps à l'autre de changer, laisser le temps à l'autre de pousser, d'évoluer. C'est accepter qu'il soit en chemin, et comme nous, d'ailleurs, nous sommes aussi en chemin. C'est renoncer au jugement de son frère ou de sa sœur. C'est aussi lui laisser le temps d'évoluer, laisser au Seigneur le temps de le transformer. Et on sait que ça prend du temps. On le sait dans nos vies. C'est ne pas mettre la pression, par exemple, sur les jeunes chrétiens pour qu'ils adoptent tout de suite le profil du chrétien parfait. Nous, on a mis du temps pour arriver pour s'approcher un peu de ça. C'est accepter que tel frère ou sœur ou telle sœur se débatte avec un problème depuis des années peut-être, mais donc accepter de ne pas pour autant remettre en cause l'authenticité de son amour pour Dieu, de sa foi, de sa conversion. Et puis la patience de Job dans nos relations. Comment se manifeste dans nos relations, puisque les deux passages sont liés, la patience de Job. Eh bien là, la patience de Job dans nos relations, c'est pouvoir endurer des tensions, par exemple, y compris dans notre vie fraternelle. On peut s'en attrister, peut-être on peut souffrir, mais on ne va pas pour autant tout balancer et renier sa foi. Et donc, c'est la patience de Job dans nos relations, c'est endurer. Non pas sans pour autant justifier, sans pour autant se contenter des choses. Mais c'est endurer. Et c'est prier, donc, et œuvrer pour la réconciliation, pour le pardon. Et donc, là aussi, le cultivateur, comme Job, sont d'un grand secours dans notre combat pour la patience, dans le combat quotidien pour la patience. Et donc je conclus, la foi chrétienne est caractérisée par notre espérance. Pour le chrétien, le royaume de Dieu est en marche, hein, dans l'histoire. Et au jour de la venue du Seigneur, il sera pleinement accompli, établi. C'est aussi certain que chaque année vient le temps de la récolte. Et à cause de cette espérance, la patience est une vertu essentielle pour le chrétien. En tant qu'ouvrier d'abord avec Dieu, dans le champ de son royaume, il nous faut la patience du cultivateur. Et parce que la vie d'aujourd'hui est faite aussi d'épreuves, de contrariétés, il nous faut la patience de Job, la fermeté de Job. Et si cette espérance est bien ancrée dans notre cœur, alors elle aura un impact sur notre quotidien. Elle aura un impact aussi sur nos relations, des relations qui seront marquées par la patience. Amen.